Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode qui aujourd'hui se transforme en Entreprendre dans l'art ou la culture. Je suis accueilli chez Amélie Duchalard et elle va se présenter. C'est la fondatrice de...
Amélie Maison d'Art.
Salut Amélie.
Salut Adrien.
Ben, ma première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît?
Avec joie. Amélie donc Duchalard, j'ai 35 ans, presque, pas encore en fait. J'ai grandi à Paris, j'ai fait des études de commerce, j'ai deux frères et deux sœurs, moi j'ai deux enfants, et je m'arrêterai là. Et j'ai monté il y a 6 ans Amélie Maison d'Art, donc ouais. Avec un objectif assez clair, celui de bousculer les codes des galeries traditionnelles.
Trop bien, bon pitch. Et alors, ma deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance jusqu'à la fondation de ton business? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Où est-ce que t'es né? Où est-ce que t'as grandi? Qu'est-ce que t'as fait comme études? Qu'est-ce que t'as eu comme parcours pour créer un lieu comme ça, pour créer une affaire comme ça?
Je suis donc née à Paris et où j'ai grandi, entourée donc de beaucoup de bruit, puisque je l'ai évoqué, pas mal de frères et sœurs, mais dans un environnement génial, avec des parents géniaux, une mère sculpteur, un père avocat d'affaires, donc à côté plus business et à côté plus créatif.
Intéressant, ouais.
J'ai commencé plutôt à suivre les pas de mon cher père, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai fait le SCP. Et moi, j'adore les chiffres, donc je me suis spécialisée en finance assez vite et j'ai d'abord commencé ma carrière en banque d'affaires. Donc, j'accompagnais des entrepreneurs dans la cession ou l'acquisition de leur société.
Okay.
Donc, en fait, j'ai quand même été très inspirée par des parcours d'entrepreneurs à succès, plutôt à succès, même s'ils ont eu des moments compliqués. Et je pense que ça m'a donné inconsciemment, en tout cas, envie d'essayer de mon côté aussi.
Dans quel secteur tu faisais de l'acquisition de la FUSAC?
Oui, en fait, j'étais dans une division qu'on appelle Small Limit Cap. Donc, j'accompagnais des PME, donc des entreprises qui ont moins de 300 millions de chiffre d'affaires.
Des petites PME.
Des petites PME. Mais en tout cas, il y avait à la fois des sociétés à 10, une dizaine ou une quinzaine de millions de chiffre d'affaires et des plus grosses sociétés. C'est vrai que le spectre des PME est large. Mais en revanche, à chaque fois, l'avantage d'être dans cette division, dans ce métier, c'est qu'on est très impliqué dans les processus et donc très en contact de l'humain. Et c'est quand même la partie sympa de ce métier. C'est la compréhension d'un business, mais par l'homme, par les moments qu'il a connus, positifs, négatifs, la compréhension de son activité, etc. Donc, enfin, en tout cas, j'ai vraiment adoré ce métier.
Ouais. Qu'est-ce que tu as compris des entrepreneurs?
J'ai compris que... Que pour être entrepreneur, il faut être un peu inconscient.
Un peu fou.
Il faut avoir une dose d'inconscience et il faut être un peu. Faut pas être averse au risque.
Ouais.
Et donc ça va de pair quand même avec l'inconscience. Et je pense qu'il faut être plutôt bien dans ses baskets.
Donc équilibré.
Plutôt équilibré en tout cas.
Ça veut dire quoi être bien dans ses baskets?
Un peu ancré.
Ancré, ouais.
Ouais. C'est-à-dire que si vous vous posez des milliards de questions sur votre vie personnelle, parce que vous n'avez pas tout résolu, et je le comprends très bien, c'est compliqué de monter une activité qui était une autre partie de soi. Hein,
ouais.
Parce qu'en fait, globalement, on passe sa vie à travailler en tant qu'entrepreneur. Il faut déjà être un peu ancré personnel dans sa personne, être bien avec soi-même, comprendre ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de le faire, avec qui on a envie de le faire. Et ensuite, on peut démarrer avec inconscience.
Ouais, c'est vrai. C'est la première fois que j'entends un truc pareil, alors que j'ai fait 350 épisodes. Je trouve ça vachement intéressant et je te rejoins complètement. Si tu commences à tergiverser sur d'autres sujets que ton business, ça devient très compliqué.
Exactement. En fait, je pense que si c'est déjà compliqué de monter une société, il y a vraiment un nombre de problématiques qui est invraisemblable et je pense qu'il est d'ailleurs impossible d'estimer à l'avance. Hein. Mais donc, si soi-même on s'en pose en plus sur sa personne des milliards, je pense que c'était cacophonique.
Ouais, c'est clair. Ok. Donc, tu fais ça pendant combien de temps ?
Donc, je fais ça pendant presque 7 ans.
Ouais. Tu kiffes ?
Ouais, j'adore. J'adore ça. Je travaille comme une folle, mais j'adore travailler, donc ça ne me pose aucun problème. Et c'est un métier aussi, du coup, j'ai quand même cet avantage-là. C'est un métier où j'ai très bien gagné ma vie. Et donc, ça me permettait de m'acheter beaucoup d'œuvres.
D'accord.
Non, mais donc du coup,
t'avais déjà une passion pour l'art.
Complètement ouais. Cette passion-là.
Qui vient de ta maman, de ton papa, des deux ?
Qui vient des deux. Donc, moi, j'ai vraiment grandi entourée d'artistes, puisque du côté de ma famille maternelle, il y a beaucoup d'artistes. Donc, d'artistes, d'œuvres, de beaux objets, mais vraiment rassemblés et collectionnés par passion. Donc, j'ai vraiment grandi de façon, c'était totalement inconscient, on m'a jamais assommé avec ça, mais j'ai grandi dans un environnement hyper privilégié, mais avec des très belles choses, donc j'ai été très sensibilisée au beau, on va dire, ça c'est sûr, donc une mère créative, un père collectionneur, donc qui soutenant la création, donc les deux, la combinaison de ces deux éléments, là, dans un petit shaker avec un bon salaire à côté, ça fait que vous commencez vous-même à vouloir être entouré de belles choses.
Bien sûr. Ok. Et donc, au bout de 7 ans, tu as accumulé une jolie collection. C'était quoi ton esthétique, d'ailleurs ?
Alors, j'ai toujours... C'est sans doute aussi un héritage familial, mais j'ai toujours été plutôt attirée par l'abstraction, tous les médiums, mais plutôt la peinture au départ ou les œuvres sur papier. Et je me suis ensuite un peu plus intéressée à la sculpture, la céramique ou d'autres médiums. Mais en tout cas, quand même, au départ, plutôt l'abstraction et des artistes contemporains, donc des artistes vivants.
D'accord. Par exemple, tu fais un peu de name-dropping, là ?
Non. Alors, il y a des artistes que je suis depuis très longtemps. Tanguy Tolila, Marie-Claude Bugeaud. Je ne pense pas que ça ne va pas être des noms forcément que tu connais, parce que même si j'adore Soulages ou j'adore Sburaglio, qui sont des artistes encore vivants, très connus. Mais voilà, à l'époque, je m'achetais des petites œuvres ou petites ou moyennes œuvres d'artistes que je suivais, que j'aimais, qui me plaisaient, que j'avais envie de soutenir.
Ouais, trop bien.
Et qui ont d'ailleurs constitué le premier noyau d'artistes que j'ai représenté quand j'ai monté la galerie.
Et alors, cette passion liée à... En fait, c'est quoi la genèse du truc ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta carrière pour que tu te dises « Ok, bon, maintenant j'ai fait le tour de la FUSAC et j'ai envie d'entreprendre à nouveau ?»
En fait, il y a des éléments personnels, des éléments plutôt... vraiment lié au business. Les éléments personnels, c'est que je travaillais avec mon mari.
En FUSAC. Ok.
J'adorais.
Que tu as rencontré là-bas, non ?
Que j'ai rencontré là-bas.
Bien sûr, classique.
Et c'est pas, on va dire, très déontologique dans ce secteur de continuer dans cette voie-là.
Ok.
Mais ceci dit, j'aurais pu très bien aller en face chez Lazard ou chez Goldman Sachs. Hein. Donc en fait, j'aurais pu très bien continuer ce métier. Donc ça répond que partiellement à la question. En tout cas, c'est la première raison qui m'a fait m'interroger sur ce que j'avais envie de faire ensuite.
Ouais.
Et ensuite, la deuxième raison...
Juste pose bien le micro là, comme ça. Sinon, c'est dans l'écho.
Désolé. Mais c'est parce que comme tu le fais pas, toi...
Je le fais, si tu racontes.
Et la deuxième raison, c'est que j'ai accompagné un entrepreneur dans la session de sa société qui était dans l'artisanat d'art. Et donc, ça m'a fait quand même me pencher sur le secteur d'un point de vue plus micro, c'est-à-dire les chiffres du secteur, les évolutions, les tendances, etc. Premier aspect. Deuxième aspect, moi à l'époque j'habitais rue Jacob, donc je faisais le trajet rue Jacob, avenue Messine tous les jours, et il y avait une galerie sur deux qui fermait chaque semaine, donc j'ai commencé à m'interroger sur la raison de ces fermetures et pourquoi c'était les marchés des galeries qui étaient vraiment si sinistrés. Alors que j'étais entourée de gens, banquiers, qui avaient les moyens, qui aimaient les belles choses, mais qui ne mettaient pas les pieds dans les galeries. Donc en fait, j'observais une demande importante et une offre qui était fragilisée et qui ne correspondait pas à cette demande. Bon, du coup, j'ai commencé à me pencher sur ces problématiques et à essayer de repenser...
Comment tu t'es pris d'ailleurs ? T'as été rencontrer des galeristes ? Comment tu t'es pris ?
Non, mais alors c'est ça. Je me suis pas beaucoup posé cette question.
Okay.
J'ai honte. C'était mon métier de faire des business plans, ouais. des études strat. Ouais. Et non, j'ai rien fait. En fait, je suis quand même. Je pense tout à l'heure, tu m'as demandé quelles étaient les caractéristiques d'un entrepreneur. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intuitif dans un entrepreneur aussi. Dans le
T'as une vision.
Ouais, je sais pas si j'ai une vision parce que cette activité je l'ai créée, mais ça a mis un peu de temps aussi. Et puis j'ai ajusté. Donc j'ai eu un premier déclic de départ qui consiste à dire en fait l'expérience de l'art aujourd'hui, ben elle n'a pas bougé depuis 60 ans. Pire, elle s'est refroidie. C'est devenu de plus en plus élitiste, difficile d'accès, compliqué de comprendre. En parallèle de ça, toutes les autres industries évoluent énormément, à la fois sur le digital et en physique. Même les grandes marques de luxe, vous allez voir la boutique Louis Vuitton, Place Vendôme, c'est comme une maison d'un esthète. Donc, en fait, j'ai juste combiné des éléments que j'observais et puis je me suis dit, OK, comment on peut repenser l'expérience de l'art ?
OK. Et alors, comment t'as fait ?
Alors, donc pour ça, on n'avait pas le choix. Il fallait que je bouscule les codes un peu des galeries traditionnelles.
Ouais. Qui étaient les codes des galeries traditionnelles,
codes,
c'est quoi ?
C'est un des espaces plutôt muséaux. Une présence digitale très limitée, voire d'ailleurs glaciale à l'image des espaces, avec juste des noms, enfin assez peu dynamiques, on va dire.
Ouais, c'était l'artiste, les différentes expositions.
Voilà, et puis basta.
Deux, trois images et basta cosy.
Voilà, exactement. Pas de numéro de téléphone, pas d'email. C'est compliqué d'essayer de. Voilà.
Mais pourquoi ces codes-là ?
Non, mais c'est parce que c'est un marché qui est. Un peu particulier.
Parce que moi, quand je pense
galerie, codifié,
ouais, c'est quoi, c'est Perrotin. Tu parles là, on parle de Perrotin, de
Oui,
de
non, non, parce que non, je trouve qu'aujourd'hui, ces dernières années, quand même, les très grandes galeries, ces top 15 galeries là, Kamel, Perrotin, Tadeusz Ropak, etc. Je trouve qu'elles ont fait beaucoup. Elles ont beaucoup.
Elles se sont bougées.
Oui, elles ont vraiment fait pas mal d'améliorations, même sur le digital. Je parle plutôt de tout le secteur, tout le mid-market du secteur artistique.
Ouais.
Donc toutes les petites galeries qui étaient en fait assez attentistes, qui sont boulevard Saint-Germain, qui sont pas loin, hein, qui sont nos voisins là, hein, mais qui attendent que quelqu'un passe dans la galerie. Mais en fait, ça fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Donc voilà. Bon, et il y en a qui font des travaux, vraiment qui sont remarquables galeristes. Hein, donc, ce n'est pas du tout une critique que je fais.
On les aime, on les embrasse, on adore leur métier.
Non, mais on les salue.
On les salue.
Non, mais sérieusement, et on les respecte.
Bien sûr. C'est juste que
aujourd'hui, si vous voulez aller chercher des jeunes collectionneurs, essayer de parler à l'oreille des jeunes collectionneurs et même des collectionneurs plus âgés, mais qui ne savent pas très bien par où commencer, il faut s'y prendre autrement.
D'accord. Et donc ?
Et donc, on l'a fait de plusieurs façons. Alors, je pense qu'Adrien, tu connais que la cascade Amélie Maison d'Art, toi.
Ouais.
Mais je vais te décrire en amont et après on rentre dans le détail d'Amélie Maison d'Art. Mais
génial.
En fait, on l'a fait de quatre façons, repenser l'expérience de l'art. On l'a fait donc Amélie Maison d'Art qui s'adresse aux particuliers. On a monté Amélie Corporate qui est dédiée aux professionnels. On fait la curation et la sélection d'œuvres pour des espaces ou des marques de luxe ou des gros groupes, etc. Studio Miracolo, qui est une autre société qui est dédiée à l'édition d'art. Donc ça, c'est une offre plus millénials, mais donc ce sont des œuvres en tirage limité à moins de 30 exemplaires sur des papiers d'art, etc., d'artistes émergents, mais donc avec des prix vraiment plus accessibles. Et la dernière activité qui s'appelle Ambroise Maison de Collectionneur, et ça qui est un peu une synthèse de toutes les autres activités. En fait, Ambroise, ce sont des espaces à louer qui, à l'image de la galerie, ce sont des lieux inspirants, inspirés, qu'on a réalisés avec des artistes et des artisans, pour passer un moment un peu hors du temps, et on le loue à des particuliers ou des professionnels. Voilà.
Trop bien.
Donc c'est Amélie, le groupe, tout le groupe, ce sont ces quatre entités, ces quatre filiales, et le vaisseau amiral effectivement étant Amélie Maison d'Art. Alors, Amélie Maison d'Art, en fait, c'est la combinaison d'un site et d'espace physique. Donc en fait, nous avons un espace exceptionnel dans le 6e, là où on est maintenant, Adrien. J'espère qu'il est exceptionnel.
Ah bah, il envoie du lourd. Je m'attendais à une petite pièce. Là, c'est un palace, quoi. Décris-le, parce que c'est impressionnant.
Non, donc c'est un espace qui est dans une rue, rue Séguier, qui est une rue qui a une jolie histoire. C'était une rue avec énormément de maisons d'édition, donc autour de la culture, très connue du milieu de la culture. L'hôtel d'Aguesso, qui est un hôtel particulier dans lequel d'ailleurs Camus a écrit pas mal d'ouvrages. Bon, j'arrête là. Mais, donc c'est un espace qui est grand, qui fait plus de 400 mètres carrés et qui ressemble plus à la maison d'un collectionneur qu'à une galerie, dans lequel qui est vivant, dans lequel il y a des meubles, dans lequel les espaces se suivent, mais en proposant des expériences un peu différentes. Voilà. Donc il y a des salons, une entrée, deux salons, vous avez ensuite une salle de billard, un grand bureau, une cuisine et une grande, ce qu'on appelle le jardin d'hiver derrière, qu'on ira voir après. Et tout ça donne sur un jardin privé, voilà, assez la jolie surprise.
C'est magnifique.
Donc, Amélie Maison d'Art, je reprends la combinaison d'un site et des espaces physiques. Donc notre l'espace qui, voilà, qui vit différemment et qui est présenté différemment qu'une galerie traditionnelle. Donc en fait, c'est un lieu dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent presque chez soi, dans lequel on a envie de rester, en tout cas on l'espère. Mais surtout, en fait, dans notre raisonnement, nous, on inverse la logique traditionnelle. C'est-à-dire, en fait, le parcours client, il passe par le site. L'intéressé, il va sur le site, il nous dit, voilà les travaux que j'aimerais voir Danon, Paula Carmen, Tolila. Il prend rendez-vous et quand il arrive à la galerie, il y a un accrochage personnalisé avec l'ensemble des travaux qu'il souhaitait voir. Mais évidemment, aussi d'autres travaux susceptibles de lui plaire. Parce que nous, on sait que quelqu'un qui aime le travail de Paula Carmen, il va aussi aimer le travail de Grelier, où il est capable aussi d'être sensible au travail de Nadine Altmaier. Donc en fait, on va aller plus loin aussi. Là où dans une galerie classique, tu rentres, tu as une expo qui est présentée, tu as un ou deux artistes présentés. Donc t'aimes ou t'aimes pas, mais enfin en tout cas, voilà, on te donne à voir quelque chose. Nous, c'est toi qui choisis ce que tu as envie de voir, globalement. Tout ça au sein d'un ADN, d'une curation, hein, et d'un ADN qui est plutôt l'abstraction qu'on a évoqué au départ. Ce format-là, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet en fait déjà d'accompagner très bien une personne, c'est-à-dire d'être vraiment avec lui, de lui expliquer la démarche de l'artiste, les techniques, de lui montrer des travaux, en fait. Et ça lui permet aussi de prendre le temps. Je le dis souvent comme ça, en fait, je suis convaincue que l'œil, c'est un muscle, mais c'est un muscle comme un autre muscle du corps et qu'il a besoin de voir beaucoup de choses pour comprendre ce qu'il aime, sa sensibilité, avec quoi il a envie de vivre. Du coup, généralement, je parle des galeries plutôt traditionnelles, petites, c'est des espaces petits, donc peu d'œuvres, forcément. C'est aussi pour ça qu'on avait besoin d'un espace assez grand pour pouvoir exprimer pas mal de médiums différents, donc de la peinture, de la sculpture, des œuvres sur papier, de la céramique, pas mal de démarches et d'écritures picturales différentes pour que justement le collectionneur puisse essayer de se projeter évidemment parce que le lieu lui permet et de se faire l'œil, d'essayer de muscler son regard.
Trop bien. Tu dis que vous êtes donc un groupe, tu parles de on, tu as des associés. Tu as commencé par quoi en fait? Entre le moment où tu as claqué la porte de ton cabinet et que tu as monté le business, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'y es pris comment? Tu as levé des fonds, etc. Ouais.
Non, alors j'avais. Aujourd'hui, je suis seul actionnaire. Okay. Donc voilà, j'ai une très bonne équipe. On va en parler après. Mais donc aujourd'hui, je suis seul actionnaire. Quand j'ai quitté Rothschild, j'avais un peu d'économie qui m'a permis de démarrer. Mais j'ai monté le site internet, d'accord, qui était déjà un site internet marchand.
Ouais.
Et ensuite, je me suis mise assez vite à la recherche d'un espace physique. Entre les deux, il a dû se passer 6-8 mois et j'avais suffisamment d'activité. Quelques économies et un banquier très sympathique qui m'a permis de trouver un premier espace qui est un espace qu'on a encore, qui est dans le 9e à Paris, mais qui est pareil, qui est pensé comme un appartement.
D'accord.
Et qui est encore plus caricatural, mais c'était volontaire, c'était bien pour cranter notre concept, qui est vraiment, il y a une chambre, il y a une salle de bain, donc vraiment
d'accord.
Comme un appartement.
C'est un appartement, ouais.
Voilà, exactement. Sur la rue, on y rentre par la rue, mais c'est un appartement. Donc j'ai démarré seule. Et je suis toujours seule. J'ai vraiment une équipe. Je dis on parce que j'ai une très bonne équipe et que je considère que le travail que je le fais avec elle.
Pour revenir sur le démarrage, quand tu dis voilà, je crée ce site, tu fais un Shopify, tu mets tes œuvres,
tu fais un développeur, shooting. En tapant sur Google développeur. Et
ouais.
Non, okay. Mais presque. Hein.
Ouais. Et tu photographies des œuvres que tu as démarché des artistes que tu représentes, voilà. Comme une vraie galeriste, enfin comme une galeriste classique.
Exactement. Je suis allée voir des artistes. En fait, le premier cercle d'artistes que j'ai représenté, ce sont des artistes que j'ai achetés.
Tu collectionnais, ouais, ouais. Déjà. Mmh.
Du coup, je suis allée les voir. J'ai dit, voilà ce que j'ai envie de faire. Mmh. Est-ce que vous me suivez ou pas? La plupart sont venus. Et donc, j'ai démarré avec eux. Ce cercle d'artistes, je l'ai élargi. Mmh. Mais,
en sachant que les artistes, ils ont des contrats d'exclusivité non, avec les galeristes ou pas forcément? Ça
dépend.
Changé. Ouais.
Ça a un peu changé. Mmh. Effectivement, il y a 60 ans, c'était le cas. Ça a un peu changé. Nous, on a encore. Ça dépend des cas de figure. Les artistes étrangers, souvent, on est les seuls à les représenter en France. Mmh. Les artistes français, ça dépend. Mmh. En tout cas, on a toujours l'exclusivité en ligne, nous.
D'accord. Très bien. Donc, tu shootes ces œuvres, tu racontes l'histoire, tu vas chercher. Comment tu vas choper tes premiers clients?
Non, ah ouais, mais je vais chercher mes premiers clients. Le premier, c'est sûr que le démarrage, c'était le bouche à oreille. Ouais. J'avais quand même un réseau qui était intéressant par mon ancien métier.
De collègues qui avaient un peu, ouais, qui avaient déjà les moyens et qui étaient intéressés par l'art.
Exactement. Ouais. Et ensuite, j'ai persévéré. Je ne peux pas dire que c'était explosif immédiatement. Mmh. Hein, donc,
ça, c'était en quelle année?
Ça, c'était fin 2015. J'ai quitté la banque en fin 2015.
Donc, d'accord, 2015. Donc, 2016, et maintenant, il y a 7 ans, ok. Ouais,
2016, en fait, vraiment
2016.
Le démarrage.
Très bien.
Et ensuite, c'est pour ça que je dis qu'il faut être un peu inconscient, parce que si vous êtes trop, si vous posez trop de questions, moi, j'aurais pu. En fait, moi, quand je l'ai monté, je me suis dit, bon, si, en fait, dans un an, ça ne marche pas, ce n'est pas dramatique, je retournerai en banque d'affaires, ce n'est pas très grave, mais tentons. Donc, et après, j'ai démarré, ça a bien marché, ça a bien marché. C'était pas non plus, mais parce que j'ai jamais levé d'argent, donc j'ai fait ça à mon rythme. Mais moi, c'est ma façon aussi, c'est ma perception d'une société. Je ne perçois pas la société comme une société qui lève des millions, qui en perd des millions. Ouais. C'est pas du tout ma conception. Et bien d'ailleurs, sûr. C'est sans doute lié aussi à ce que je faisais avant. Pour moi, une entreprise et entreprendre, c'est quand même avec raison, entre guillemets, quelque chose de raisonnable, d'un point de vue financier, en fait. Hein.
Bien sûr.
Donc on a
tu
grandi.
Tu gagnes plus que tu dépenses et on avance comme ça. Petit
exactement,
à petit.
Ouais. Exactement. Je réinvestissais tout chaque année, même encore aujourd'hui, on réinvestit sous dans le développement. Et là, on grandit vraiment. On a eu une espèce d'accélérateur quand j'ai ouvert l'espace dans le 9e.
Ouais, ça c'était vraiment comme dans beaucoup de boutiques dans la mode. T'ouvres une boutique, c'est une accélération folle parce que t'as beaucoup plus de presse, les gens rentrent, te voient, te rencontrent, il y a une espèce de bouche-à-oreille automatique.
Les premiers clients, c'est ça, le premier bouche-à-oreille. Deuxième, c'était quand même l'ouverture du lieu, puisque ça a permis d'avoir pas mal de presse, parce que c'était un concept avant-gardiste et que du coup ça plaisait dans ce secteur culturel qui était pas voilà. Et ensuite, on a ouvert Ambroise Maison Collectionneur, ça la presse aimait bien aussi, ça a été un bon relais. Dans la communication. Amélie Corporate, on s'est mis à faire des hôtels. Les hôtels, vous avez un relais, parce qu'en fait, quand vous travaillez une curation, une fresque particulière, quelque chose un peu gigantesque ou monumental dans un espace, vous transformez l'espace, vous transformez l'expérience. Mmh. On parle de l'hôtel, on parle de vous. Donc voilà, ça a fait un peu boule de neige et la vie est bien faite, et voilà.
Trop bien. Dans le monde de l'art, comment ça fonctionne le contrat avec les artistes? Parce que historiquement, j'ai l'impression que le galeriste prenait tout et l'artiste n'avait plus grand-chose finalement. En plus, il avait des contrats d'exclusivité. Aujourd'hui, comment ça fonctionne dans le monde de l'art et chez toi?
Je pense qu'il n'y a plus vraiment de règles aujourd'hui. Les très grandes galeristes ont souvent l'exclusivité dans des pays ou des régions. Et ensuite, parce qu'en fait, il y a un tel investissement qui est donné que c'est un peu un win-win, quoi. Mmh. Il faut effectivement que l'artiste concède cette exclusivité. Nous, on a différents cas de figure. Parce qu'en fait, on représente, nous, 130 artistes, donc c'est beaucoup. Donc, tous les médiums, donc il y a une vingtaine de peintres, une vingtaine de sculpteurs, une vingtaine de céramistes. Par médium, c'est pas tant que ça, mais au total, on en a beaucoup. Et on a une quinzaine d'artistes qui sont les plus dynamiques. Et ces 15-là, on les a en exclusivité. Et les autres, on a des cas de figure différents en fonction des situations.
D'accord.
Voilà, donc je pense qu'il n'y a plus vraiment de règles, mais c'est lié à la transformation du marché. Même, vous avez par exemple l'ensemble des réseaux sociaux qui diffusent tellement d'images... que les clients sont en contact direct des artistes, mais du coup, ça rend les choses aussi compliquées pour les intermédiaires. Donc, Voilà, je pense que le marché il est aujourd'hui très, très mouvant et assez instable, et les galeries ne peuvent plus prétendre à des exclusivités, sauf si elles sont extrêmement performantes.
Mm-hmm. Et sur le partage de la valeur, comment ça se passe ?
C'est assez standard. Mm-hmm. C'est quasiment, nous c'est entre 50 et 30 % que la commission galerie entre guillemets.
D'accord.
En fonction de, par exemple sur de la sculpture, le prix du bronze est tel que vous avez un partage qui est plus favorable pour l'artiste parce qu'en fait il y a un coût de production qui est très important.
Ouais.
Donc en fait c'est assez naturel. Je sais qu'il y a des grandes galeries qui ont des taux de des pourcentages plus élevés que ça, c'est-à-dire plus à leur faveur.
Ouais.
Voilà, je pense que, et puis ensuite il y a des galeristes qui fonctionnent un peu à l'ancienne, comme début du 20e, où les galeristes, les marchands achetaient à l'artiste l'ensemble des stocks, et du coup vous permettez de négocier des prix bien plus avantageux.
D'accord, et ça existe encore ça ?
Il y a quelques anciens qui font ça encore.
D'accord, ok, intéressant.
Donc, par exemple, je sais qu'en Belgique ou dans certains pays, ou en Allemagne un peu, c'est encore des standards de marché.
D'accord. Et par contre, toi, les œuvres qui sont ici, par exemple, ne t'appartiennent pas. Elles appartiennent toujours à l'artiste. Elles sont en exposition. Et si c'est vendu, tu prends une commission et tu rétribues.
Oui, ça dépend des cas.
Ouais.
Et c'est essentiellement le cas, mais pas que. Je dirais qu'il y a 80-20. Il y a 20% d'œuvres, soit parce que l'artiste a besoin d'argent.
Ouais.
Par exemple, enfin, nous, on est ravis de l'aider. Mmh. Et du coup, on prend des œuvres en avance. Soit parce que... on a quelques cas où on a des œuvres en collaboration avec une autre galerie qui était la galerie privilégiée, number one, et donc on passe via elle et du coup on achète les œuvres.
D'accord. Enfin,
quelques cas de figure particuliers. Mais
d'accord.
C'est essentiellement le cas, les œuvres sont en dépôt.
Et alors explique-nous, j'aime bien attaquer les business de cette manière-là, l'expérience client, c'est quoi, c'est the customer journey, comment on dit en anglais. Comment les gens rentrent chez toi, et c'est quoi entre le moment où ils te connaissent et le moment où ils repartent avec une œuvre sous le bras, comment ça se passe?
Généralement, la personne, elle nous connaît soit par la presse, soit par les réseaux sociaux, on est assez dynamique. Ils nous contactent soit par le site, soit directement via les réseaux sociaux ou le téléphone, pour venir voir des œuvres. Voir des œuvres soit en FaceTime, en call, hein, soit en physique, et c'est souvent le cas. Mais comme on a quand même peut-être 30% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, il y a quand même pas mal de distance aussi. Et donc, nous, on va avoir un premier échange avec eux, et on a un outil pour le faire, pour essayer de comprendre leur sensibilité. Soit la personne n'a pas du tout le temps, donc on lui envoie juste cet outil, il y a plein d'images, et on lui demande de cliquer sur ce qui lui plaît.
Okay.
Nous, notre objectif, en fait, c'est de l'accompagner le mieux possible dans la constitution de sa collection, mais surtout l'accompagner le mieux possible pour trouver le travail, quelle est sa sensibilité. Pour que quand ils viennent ici, on ait fait un accrochage qui soit le plus proche de
D'accord, donc vous faites un accrochage spécifique pour chaque client.
Okay. Tout à fait. Si tu viens dans une semaine, Adrien, ici, tu ne reconnaîtras rien.
Ah oui, donc logistiquement, c'est quand même lourd.
Il y a une équipe de 3 personnes qui ne fait que ça.
D'accord. Ouais. Ah oui, c'est ouf.
Donc ensuite la personne arrive et là donc elle nous a indiqué 3 artistes qu'elle aimait ou 3 médiums qu'elle voulait voir. Elle veut voir de la sculpture par exemple, ou 3 artistes. Elle arrive, une personne dédiée va s'occuper d'elle, et donc c'est une promenade ici avec elle. On va lui montrer les œuvres qu'elle souhaitait ou les artistes qu'elle souhaitait voir en lui expliquant un peu. Ensuite ça dépend, nous on a un peu d'expérience maintenant et on comprend aussi quelle posture avoir avec la personne qui vient, le visiteur. Il y a des gens qui veulent être plutôt tranquilles, il y en a d'autres qui demandent pas mal d'informations et qui veulent vraiment être accompagnés. Donc là, il faut un peu d'ajustement de notre part. Et ensuite, là, ça dépend des profils. Soit vous avez l'impulsif qui veut se faire plaisir assez vite. On a, je pense, la moitié des cas, c'est ça. Et donc la personne, elle va passer du temps ici, hein, quand même. Dans une galerie traditionnelle, tu rentres, tu restes 15 minutes. Bon, ici, tu restes 1h30, 2h.
Okay.
Donc, à l'issue de cet échange, nous, on va lui sortir pas mal d'œuvres en plus, parce qu'elle va me dire, ah oui, moi, j'adore ce travail-là, là, derrière, Sophie Garam. Ah, mais très bien, on va lui dire, ben là, il n'y en a qu'une accrochée, mais moi, je vais te rechercher 5 autres, pour juste que tu comprennes son travail, etc. Donc, cet échange prend un peu de temps, et à l'issue du rendez-vous, donc soit il prend des œuvres directement, soit il nous demande de faire un récap et de faire quelques simulations ou lui faire un document de synthèse. Et ensuite, une fois qu'il valide tout ça, nous, on vient aussi faire l'accrochage, c'est lui.
D'accord.
Donc c'est aussi, en fait, on est présent sur toute la chaîne de valeur. Très en amont, on est capable de lui faire des simulations sur ses murs. Mmh. Voilà, notre équipe va lui faire ça, pour qu'il se projette un peu mieux s'il a des difficultés. À l'issue de ça, on va effectivement faire des accrochages chez lui. Et on va encore plus loin que ça, parce que très souvent, nous, c'est à savoir qu'une personne vienne une fois et qu'on la revoit jamais. Je pense que c'est 10% de nos cas. En fait, quand vous passez du temps avec quelqu'un et que vous comprenez sa sensibilité et que la personne s'est un peu révélée, l'échange est construit. C'est un peu comme un très bon médecin ou un très bon avocat. Quand tu as un très bon conseil, tu veux le garder. Et en tout cas, quand quelqu'un a compris quelle était ta façon de voir les choses, voilà. Donc, on a une relation très privilégiée et assez une relation vraiment de fidélité avec l'ensemble de nos clients. Ça, c'est la partie la plus sympa du métier, donc c'est vraiment super. Et donc, après, on va avoir vocation à la revoir. Et pour ça aussi, on fait pas mal d'événements un peu particuliers. Donc, on fait évidemment des vernissages plus classiques, mais on fait des soirées, des visites d'ateliers, évidemment, des rencontres artistes, collectionneurs. On avait un dîner cette semaine avec... les rencontres d'un artiste avec ses collectionneurs ici, ou des soirées, ça c'est un peu c'est le bon reflet de notre façon de voir les choses, qui s'appelle Apprendre à voir, avec un critique d'art, un historien qui est vraiment formidable, qui s'appelle Pierre Vatt. Et en fait, c'est une promenade ici, on invite 15 collectionneurs, Pierre, et c'est une promenade dans la galerie, on va s'arrêter sur peut-être 4 à 5 tableaux dans la soirée, mais on va s'arrêter devant un tableau et l'objectif, c'est d'essayer d'exprimer pourquoi on est sensible ou non à ce travail. Et c'est très difficile de le faire devant des œuvres abstraites, mais ça nous... Et toutes les raisons pour lesquelles on aime une œuvre ou pas, c'est lié à un bagage sensible, personnel, historique, quoi. Et du coup, c'est un travail d'introspection qui est assez intéressant à faire. Et voilà, on fait ça maintenant depuis, je pense, 4 ans. On le fait chaque mois, les gens adorent. Voilà. Mais tout ça, toujours dans la même mission, qui est de proposer une autre expérience de l'art et d'accompagner le mieux possible les gens dans la compréhension de leur sensibilité.
Alors vous avez un taux de transformation de 100%, non ?
Exactement.
Ouais. Non, mais c'est ça. Tous les gens qui viennent ici, ils repartent à minima avec une œuvre, au moins une.
Oui, ou en tout cas, mais pas forcément immédiatement. Et nous, on n'a aucune velléité à brusquer les gens. Et c'est pas du tout l'objet. Donc, au contraire.
Parce qu'à un moment donné, j'imagine que t'as des fourchettes de prix qui sont très larges, non ? Tu dois avoir des choses à alors peut-être pas à 100 balles, mais en tout cas à 500, ça commence
alors
à quoi ?
On parle pas de balles ici, Adrien.
On parle de quoi ? D'euros ?
Non, alors...
De bitcoin.
Non, mais c'est tout à fait vrai. On a un éventail de prix assez large qui est en fait à l'image de l'éventail d'artistes qu'on représente. On représente à la fois des artistes émergents, des artistes prometteurs, mais des jeunes talents et les prix sont raisonnables. Donc il y a des œuvres à partir de 500 euros, je dirais.
Ouais.
Et des artistes établis qui sont déjà dans des musées, des fondations, des institutions, où là, on va jusqu'à peut-être 30, 40 000 euros. 40 000 euros, je crois, le plus. Donc, en fait, on a effectivement...
Un éventail très large.
Et pour moi, c'est très important de garder cette agilité-là, parce que c'est très important pour moi d'être capable d'accompagner n'importe qui avec n'importe quel portefeuille.
Mais je trouve que ce qui est souvent... Moi, j'aime bien aller dans les galeries d'art, mais c'est toujours très intimidant, c'est froid, etc. Et puis, c'est tellement, quand tu vas chez Kamel Menour ou Tadeusz Ropak, etc., c'est tellement inaccessible que tu te dis, bon, bah, c'est pas pour moi, quoi. Mm-hmm. Et ça fait mal.
C'est pour ça que le site internet est important. Ouais, parce qu'en fait, il te décomplexe assez vite. Nous, les prix sont transparents. Donc, en fait.
Et par contre, pour toi, chaque client qui vient ici, dans la mesure où tu lui fais un accrochage et que tu vas passer 1h30, 2h, c'est un investissement de temps. Tu as 3 personnes qui font les accrochages, etc., qui est très important. Donc, il faut que tu transformes quand même. C'est très important pour toi que les gens achètent.
Mais maintenant, en fait, oui, mais on ne raisonne pas du tout comme ça ici en interne, dans nos équipes.
Ok.
Pour deux raisons, parce que je pense qu'à partir du moment où ton objectif c'est de vendre, ta méthode elle va pas être bonne, c'est-à-dire que ton attitude va pas être bonne. Et ensuite, aujourd'hui c'est le cas, c'est-à-dire aujourd'hui on convertit tout.
Ouais.
Donc en fait notre façon de faire elle est juste, sans pour autant forcer, et donc on le fait avec beaucoup. Je pense qu'on le fait avec beaucoup de sincérité.
Donc les gens viennent ici, c'est pour te faire découvrir l'art. Tu viens dans ma maison, dans ma galerie, etc. Et tu passes un bon moment avant tout. Et après, bon, si tu achètes, c'est bien. Si tu n'achètes pas, c'est pas un drame.
Exactement.
Il n'y a pas de pression terrible.
Exactement. Et donc, on dit le taux de conversion de 100%, oui. Parfois, pas la première fois. Le deuxième, il va revenir parce qu'en fait, il y a des œuvres, tout n'est pas là parce qu'on a un dépôt. Hop, on va les chercher. Donc, revient la semaine prochaine. Peu importe. Mais vraiment, il faut. L'objectif, nous, on n'est pas obsédé par, par ça.
Non, et puis, il y a quand même une logique de dire il n'y a pas de petits clients. Et la personne qui achète sa première œuvre à 500 euros, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, elle achètera celle à 40 000.
Non, mais tout à fait. Mais en fait, je vais même dire ça différemment.
Ouais.
Moi, ça me fait encore plus plaisir. D'être la galeriste qui a vendu la première œuvre à quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, sa première œuvre, ou même la personne qui a 45 ans, c'est sa première œuvre. C'est extrêmement gratifiant et extrêmement satisfaisant, plus que le collectionneur ultra amateur qui a déjà beaucoup de choses, qui a un super œil et donc j'adore échanger avec lui, mais c'est pas du tout la même satisfaction. Donc, un, c'est moi un vrai plaisir de me dire que, en fait, mon objectif est atteint, c'est-à-dire j'ai accompagné la personne qui avant n'en avait pas et je lui ai donné envie, donc c'est le premier objectif. Et ensuite, évidemment, comme mon objectif c'est de muscler ce regard, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la personne qui démarre sa collection et comme on a commencé à bien l'accompagner, elle va revenir, elle va être fidèle et elle va améliorer effectivement, continuer sa collection chez nous et son regard va un peu s'aiguiser.
Trop bien. Comment ils te voient les autres galeristes aujourd'hui ?
C'est une bonne question, je ne sais pas vraiment. C'est-à-dire que je suis pas vraiment insérée. C'est un marché qui est pas facile d'accès, qui est très codifié, assez politique. Donc j'ai franchement, moi je considère que c'est plutôt une chance. J'ai jamais eu vraiment à aller me frotter à eux. Mais il se trouve que Kamel Mennour est quasiment en face là. Donc je sais que ses équipes connaissent l'espace et viennent souvent au vernissage. Donc Je pense qu'il nous... Et puis dernièrement, on a fait ça, un bon signal aussi, un bon voyant pour moi. On a fait une collaboration. En fait, on a fait une exposition commune ici avec un galeriste parisien très connu qui s'appelle Bernard Vidal et Nathalie Berthoud, qui sont vraiment... Ce sont des galeristes implantés depuis 35 ans, 40 ans à Paris. Moi, j'allais chez eux parce que j'aimais beaucoup leur... J'achetais des œuvres chez eux parce que j'adore leur regard. Et donc là, on a fait une exposition ensemble. Pour moi, c'était sympa. Et c'était intéressant de voir qu'en fait, ils étaient extrêmement, évidemment, bienveillants, mais surtout très demandeurs, très curieux et quand même intéressés par notre façon de fonctionner, notre façon de voir les choses, etc. Donc, je pense qu'on en agace certains, sans doute. Voilà, on interroge, on étonne et on attire un peu.
Il me semble qu'Abel Menour a créé un espace aussi appartement, non ?
Oui, je crois après. Oui, même, je crois, Perrotin aussi.
Ouais. Intéressant. C'est quoi la suite des événements pour toi ? Parce que où est-ce que ça va s'arrêter cette histoire ? J'ai l'impression que c'est parti pour devenir. Enfin, je sais pas, pour devenir une institution, pour grandir. C'est quelle est ton ambition ? Est-ce que c'est suffisant ? Pourquoi tu t'es pas arrêté à ton appartement dans le 9e ? Pourquoi ce lieu immense de 400 mètres carrés ? J'ai un milliard de questions.
Alors l'ambition, la suite, c'est de continuer à émanciper tout ça de plusieurs façons. Donc pour Amélie Maison d'Art, on va ouvrir un autre espace à New York, une galerie à New York l'année prochaine.
C'est fou.
Sans doute un autre espace à Paris ensuite, pour avoir un espace entre guillemets accessible d'exposition en permanence, parce qu'ici c'est plutôt sur rendez-vous, donc on a envie de quand même casser une barrière de plus. Donc ça c'est sur Amélie Maison d'Art. En fait, ça n'a pas de sens pour nous d'aller ouvrir une galerie en Angleterre ou une galerie en Belgique. Parce que pour le Belge ou l'Anglais, on est une destination quand il vient à Paris et il adore venir. Et on en a beaucoup des clients là-bas, donc on le sait. En revanche, on a pas mal de collectionneurs aux États-Unis, mais on a un vrai frein logistique et un vrai frein de contact avec l'œuvre. Quand même, une œuvre, le sous-jacent, il faut le voir, le site, il ne suffit pas. Donc ça a vraiment du sens d'être là-bas. Donc ça, c'est l'objectif Amélie Maison d'Art. Pour la partie Amélie Corporate, donc, qui est dédiée aux professionnels. Donc là, on a des contrats avec Louis Vuitton, Dior, sur la sélection d'œuvres pour leurs espaces. On fait beaucoup d'hôtellerie aussi. Donc c'est une partie qui est quand même assez géniale aussi et très amusante. En fait, on crée des collections pour les hôtels. Cette partie-là, elle se développe énormément aussi parce qu'on n'a pas vraiment de concurrents sur notre segment. Donc c'est vraiment un potentiel très intéressant. On ouvrira sans doute un bureau aux États-Unis aussi pour ce segment et au Moyen-Orient, parce qu'on a beaucoup de projets au Moyen-Orient, donc à Dubaï. Studio Miracolo, c'est un projet online, du coup ça se déploie très bien et seul, donc on continue. Voilà. Et Ambroise Maison Collectionneur, aujourd'hui on en a 3 à Paris et on va, à partir de l'année prochaine, en ouvrir 2 à 4 par an. Mmh. Et pareil, essentiellement à Paris, et ensuite on ira à Rome en Italie. Mmh.
Mmh. Et vous achetez ou vous louez de ces lieux ?
Non, tous les lieux on les achète, oui.
D'accord, incroyable. C'est, comment tu organises tes journées, ton temps, ta vie ? Parce que tu as l'impression que tu es. Tu as besoin de faire beaucoup de choses. Pourquoi 4 business ? Pourquoi autant ouvrir ? D'où ça vient cette gloutonnerie pour l'entrepreneuriat ?
Alors, franchement, je me pose cette question souvent. Parce que je me suis rendu compte que j'adorais développer. Mmh. J'adore développer. J'adore les idées et développer des idées. Mais ce n'est pas forcément positif, ça, parce que je trouve que parfois, il faut arriver à prendre son temps sur un projet, bien le finir, l'installer. Mmh. Il y a un petit côté éparpillement, mais bon, aujourd'hui on ne s'est pas éparpillé, hein, mais et je suis convaincue des quatre axes qu'on a développés. Mmh. Mais donc c'est un petit défaut personnel, je pense. Mince, je me souviens plus la question.
Non, mais cette gloutonnerie, elle vient de quoi?
Mmh. Ouais. Ah oui. Non, oui, non, et mes journées, comment je les organise et tout.
Ouais.
Non, mais en fait, le point de départ quand même, c'est que j'adore travailler. J'adore mon travail et j'adore les gens avec qui je travaille. Mmh. Donc franchement, mis tout ça ensemble, ça fait que mes journées, elles sont complètement dédiées à ce que je fais, mais avec beaucoup de...
De fluidité.
Oui, et puis de joie, quoi, parce que j'adore, j'adore ça, quoi.
Donc, d'accord.
Je fais juste pas assez de sport, mais sinon...
Mais tu vois, tu me disais, Marie-Laure, que t'avais pas l'impression de bosser parce que t'adorais faire ça.
Ouais.
Bon, bah, c'est la même chose.
Exactement. Ouais, je vois. J'aime bien parler d'un sujet, c'est l'acquisition, mais j'ai l'impression que toi, ça se fait beaucoup bouche à oreille, mais tu crées des événements, etc. Comment est-ce que tu vas chercher de nouveaux clients ?
En fait, le digital est un outil incroyable.
Ouais. Qu'est-ce que tu as compris au digital ? Parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions existentielles là-dessus. Hein.
Non, mais moi, pour moi, c'est pas du tout un... Pour moi, c'est un canal, c'est pas un canal de conversion, c'est un canal juste de recrutement de clients, d'acquisition de clients pour qu'ils viennent ici. Parce qu'en fait, moi, une fois qu'ils viennent ici, ils sont convaincus.
Ouais.
Donc mon objectif, c'est de les faire venir ici. Donc d'abord de les driver sur le site internet. Et ça, en fait, c'est mécanique. Hein. Plus tu dépenses d'argent, plus tu as de gens qui viennent, plus
tu as
de visiteurs.
Tu fais quoi ? Tu fais du paid ?
Du coup, on a une partie en naturel, en SEO, et puis une partie en SEO, bien sûr. Où là, on a, enfin, j'ai une équipe qui fait ça, hein, du payant sur les réseaux sociaux, sur Google, sur...
D'accord. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux jusqu'à présent ?
Franchement, c'est assez paritaire. C'est assez paritaire. On a un très très bon référencement naturel parce qu'on a eu énormément de presse. Et sur le payant, moi, je ne suis pas très à l'aise avec le Google Ads, mais enfin, parce que quand tu as une bannière à 1000 maisons d'art et que tu te balades sur le site Carrefour, c'est compliqué, je trouve, dans la maîtrise de ton image. Mais voilà, on est en train d'affiner ça, d'améliorer ça. Et là, on est d'ailleurs on fait le Startup Academy et Google pour améliorer cette stratégie.
Ok. Comment tu as structuré ton équipe aujourd'hui ?
Et en fait, l'équipe, elle est divisée en quatre pôles. Il y a une équipe qui est dédiée au B2C, au particulier, une équipe dédiée au B2B, au projet B2B, une équipe com et marketing, dans laquelle il y a aussi le développeur, l'image et le site, et le développeur, et l'appli aussi. Le quatrième pôle, c'est ce qu'on appelle le back-office, dans lequel il y a la logistique, l'encadrement, les transports. En fait, c'est un énorme sujet chez nous.
Vous avez internalisé.
Oui, la partie pénible. Enfin, internalisé, c'est-à-dire qu'on gère tous les flux, mais après, tu passes par les transporteurs. À Paris, on a un transporteur, on est en interne. Mais tout ce qui est et France aussi, on a une partie en interne, enfin, toute la partie sud-sud-est. Mais tout ce qui est Europe et US, on passe par les transporteurs extérieurs.
Du type DHL, UPS.
Non,
c'est des spécialistes d'art, de pièces d'art. Ouais. Qui s'appellent comment ?
Chenu, par exemple.
Ouais.
Evertrans, ça c'est bon. Le DHL, FedEx, non mais tu peux le faire sur une petite œuvre, mais c'est vraiment la partie pénible du boulot, je trouve, que j'imaginais que ça serait un si chronophage, deux si compliqué, mais...
Ouais. Et surtout, quand tu l'envoies à l'étranger, qu'est-ce qu'il le pose pour toi ? Parce que tu vas jusqu'au bout.
Pas de relais, le problème c'est que tu n'as pas de relais. Non, donc ça dépend, on ne fait pas l'accrochage partout, du coup.
Ok, d'accord.
En France, on le fait partout, en Europe souvent, et ça dépend des pièces en fait. Hein. Mmh. Une petite œuvre, une photo, tu n'as pas vraiment besoin qu'on vienne te l'accrocher.
Non.
Un format là, on fait. On a vendu un format immense, plus de 3 mètres sur 4 mètres, et il pèse 120 kilos, évidemment, ça va le poser. Mmh. Mmh. Mais c'est plutôt le relais humain qui me manque, parce que moi, la partie importante, c'est que mon service client, il soit impeccable du début à la fin. Et quand à la fin, ton relais, il est extérieur, tu le maîtrises pas. C'est plutôt ça, ma problématique.
Toi, tu incarnes la marque beaucoup ?
Je incarne la marque ?
Ouais, tu incarnes la marque. Enfin, tu te montres beaucoup sur les réseaux ou...
Un peu, ouais. Un peu. Le minimum...
syndical.
Le minimum syndical.
Ok. Qu'est-ce que tu as en termes de contenu organique sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez fait qui fonctionne bien ?
Alors, de contenu organique, mais évidemment, beaucoup de visuels. Alors, on met le fond, c'est les visuels de la galerie qu'on met en permanence. Bon, c'est pas ça qui est le plus excitant. Les gens aiment quand on met des photos d'accrochage chez les gens.
Ouais.
On n'a pas toujours l'autorisation, mais c'est le côté voyeuriste.
Bien sûr.
Ensuite, il y a la partie le coulisses aussi, qui est assez sympa. La partie équipe, les gens adorent comprendre comment on fonctionne justement, notre équipe, voir les visages, voir le back-office, les accrochages en situation, etc. Bon, après, on fait beaucoup de visites d'ateliers, de portes ouvertes, de visites d'écoles de beaux-arts, etc. Donc, il y a aussi cette partie-là, qui est la partie plutôt en amont, c'est-à-dire les artistes.
Ouais.
Voilà, toute la partie artiste est aussi à travailler. Il faut la travailler intelligemment et avec des nouveaux, plutôt de la vidéo, parce qu'en fait, les gens ne lisent pas. Donc, il faut essayer d'attirer différemment.
D'accord, ok. Qu'est-ce que les marques de mode devraient apprendre de toi, d'après toi ? Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même compris 2-3 trucs en termes de service client, en termes de communication, en termes de plein de choses.
Alors je pense que les marques de mode, elles commencent de plus en plus aussi à repenser un peu l'expérience client. Je pense à des marques qui intègrent pas mal d'œuvres déjà dans leurs espaces. Je sais pas, Isabelle Marant par exemple, elle est très forte. Et depuis longtemps en plus, elle le fait. Hein, donc... c'est plutôt le sur-mesure sans doute que les marques de mode doivent s'en développer plus. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus de volume aussi à traiter que chez nous, hein, mais néanmoins, on se sent pas nécessairement persona grata dans une boutique. La partie nouer une relation client vraiment un peu exceptionnelle. Alors les marques de grand luxe, elles le font quand même chez Chanel,
etc. Elles le font très bien.
Ouais, elles le font bien, mais on va dire le marché du luxe accessible, en fait, qui est un peu le marché dans lequel je me trouve, dans mon secteur. En mode, elles le font pas tellement.
Mais j'y arrive pas. Mais pourquoi ?
Mais parce que c'est la démultiplication de l'espace. Elles ont 20 boutiques, donc en fait vous avez 20 relais, et donc c'est compliqué d'avoir 20 relais extrêmement qualitatifs et 20 ambassadeurs. Nous, on a un espace. Ici, on maîtrise tout en fait. C'est l'avantage aussi d'un seul grand espace. Je pense d'ailleurs que le retail va sans doute se transformer un peu comme ça. Plutôt que d'avoir 150 points de vente, d'en avoir moins,
plus
expérientiel, plus grand, et avec un SAV vachement plus soigné.
Carrément. Vous avez combien de visites par semaine ici ?
On en a entre 10 et 15 par jour.
10 et 15 par jour, ouais, donc c'est quand même intense. Ouais. Et à chaque fois, il faut réinstaller...
La veille est accrochée le lendemain, donc on accroche les 10 rendez-vous. Parfois, les gens veulent voir 2 œuvres précisément, hein, donc il n'y a pas toujours 25 tableaux pour une personne.
D'accord, très bien. Parce que tu passes beaucoup de temps avec les clients. Il faut les sentir, il faut les emmener, il faut leur faire découvrir ton univers et puis les œuvres d'art et les initier à l'art. Tu peux pas faire toutes les visites. Comment tu vas choisir les personnes qui vont le faire pour toi ? Comment tu les formes ? Comment tu...
Non, évidemment. Évidemment que je ne fais pas toutes les visites. Et j'en fais maintenant, en fait, finalement, presque assez peu. Je fais les collectionneurs, je suis depuis le début, évidemment, parce que ça me fait plaisir et parce que c'est mon rôle. Et ensuite, on a une équipe assez éclectique aussi. Et donc, en fonction du profil de la personne, on adapte un peu l'interlocuteur.
D'accord. Vous êtes combien à faire ça ?
Il y a 5 personnes.
Ok. Et que tu as recruté comment ?
Et alors, c'est amusant parce qu'avec un peu de recul, je me rends compte que quasiment... Donc moi, je n'ai pas de bagage académique,
ouais,
artistique.
Ouais. Ça a été un frein, ça ? Non ?
Non, parce que comme j'ai monté quelque chose complètement hybride,
ouais,
tout était permis. Mais je pense que dans le sérail, c'est un frein, oui. Et en fait, presque à l'image de mon parcours à moi, l'équipe qui m'a rejoint n'a presque pas vraiment de bagage vraiment académique non plus. Alors si, il y en a qui ont fait les écoles de Dreux, l'école du Louvre, voilà, c'est surtout et même avant tout plutôt une sensibilité et une capacité d'écoute et en fait plutôt une attitude, voilà, et plutôt un profil pour la partie, je parle vente, hein, un profil commercial particulier plutôt que des connaissances d'histoire de l'art ou autre. Même si évidemment, il faut, elles ont toutes un bon bagage, mais voilà, c'est pas l'obsession n'est pas celle-ci pour le.
D'accord. Vous êtes combien aujourd'hui ?
On est une grosse centaine.
Et vous générez une grosse centaine ?
Vingtaine.
Putain, j'ai peur, oh, putain.
Non, moi aussi j'aurais peur.
Une grosse vingtaine, ok.
C'est ça, c'est autre chose que j'ai dû apprendre, c'est à manager, parce que j'ai quand même été formée à ça. Donc,
d'accord, et alors comment tu t'y prends ?
Non, franchement, si je dois dire qu'elle a été la chose la plus compliquée pour moi à affronter au démarrage, c'était parce que je faisais un métier qui était assez solitaire. On est des petites équipes sur une opération en banque d'affaires, mais assez solitaire, assez bourrin. Hein, on ne met pas beaucoup de forme quand on échange entre nous parce qu'en fait, on a peu de temps et on travaille énormément. Donc, il m'a fallu apprendre, en fait. Hein, je suis repartie de zéro. Et c'était pas facile déjà d'apprendre à déléguer, première étape, et ensuite, une fois que j'étais prête, apprendre à accompagner les gens avec un peu d'empathie.
Et alors,
j'ai appris par expérience, hein, donc j'ai appris en avançant. J'ai fait des bêtises.
Il y a eu des échecs, mais ou pas d'ailleurs.
Exactement. Non, mais après, franchement, moi je trouve que c'est une bonne question. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit se changer ? Est-ce qu'on doit se changer pour manager ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire des efforts ? Parce que déjà, c'est compliqué de monter une société, mais si en plus, vous devez vous transformer, etc.
C'est comme l'histoire des états d'âme tout à l'heure. C'était des états d'âme, c'est compliqué.
Oui.
Là, c'est pareil.
S'il faut se maîtriser... Donc, c'était pas vraiment l'objet.
Et en même temps, on est à une époque où...
On n'a pas le choix.
Non, mais tu peux pas non plus tracher les gens, quoi.
Non, non, bien sûr. Non, mais en plus, c'est pas l'objet. Et moi, j'ai envie que je fais ce métier par passion et j'ai envie que les gens qui soient là le fassent de la même façon et avec la même ferveur et la même ouverture d'esprit, etc. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui dans l'équipe que j'ai trouvée. Donc, c'est pour ça que j'ai appris. Ça veut bien dire que j'ai réussi à apprendre. En fait, je me suis surtout rendu compte que pour qu'une équipe fonctionne bien, il faut qu'il y ait le même fond de caractère, quoi. Je vais dire ça comme ça. Donc, plus qu'un parcours particulier ou plus que d'avoir travaillé dans telle boîte avant en particulier, c'était plus une question de personnalité, de caractère, en fait. Donc, et aujourd'hui, ça fonctionne très très bien. Ensuite, ça n'empêchera pas que je suis plus plutôt un profil leader que manager en tant que tel, et en revanche, j'ai un très bon bras droit et un très bon bras gauche qui sont des très bons managers. Donc c'est ça aussi, je pense, hein, un bon entrepreneur, il connaît ses fragilités et il fait en sorte de les limiter un peu.
Ouais, les limiter en recrutant des gens qui vont faire ce dont tu es moins bonne pour le faire à ta place. Vous générez quoi en chiffre d'affaires aujourd'hui ?
Ah non, ça je peux pas le dire.
Ça on peut pas le dire. Pourquoi ?
Non, je peux un peu le dire. Hein.
Ouais.
Cette année, on va faire autour de 8.
Ouais. Milliards.
Milliards. Merci Adrien.
Of course. Ouais, très bien. Ça génère quand même un chiffre d'affaires conséquent. C'est impressionnant. Bravo. Moi, je suis vraiment très impressionné par tout en fait, par l'esthétique, par le lieu, par le parcours entrepreneurial. Où est-ce que tu t'inspires ? Est-ce qu'il y a des entreprises similaires sur lesquelles tu t'es inspiré aux États-Unis, en UK, etc., dans le monde anglo-saxon ?
C'est une bonne question. Alors, pas tellement à ma connaissance. En fait, sur ce marché, il y a des acteurs purement digitaux. Mmh. Et il y en a plein qui sont apparus. Alors, il y en a, ce sont vraiment des marketplaces. Donc, c'est par exemple pas comparable parce que vous avez...
Comme qui, par exemple?
Singulart, par exemple. Mais tous les artistes peuvent y aller. Donc, il n'y a pas de curation.
D'accord.
Donc, vous avez à la fois un industry art, une œuvre cubiste et... une photo dadaïste, j'en sais rien. Enfin, ouais. C'est, il n'y a pas de curation, donc moi je trouve qu'on est perdu et que le rôle d'un galeriste est quand même d'accompagner, en tout cas au sein d'une certaine direction.
Et puis c'est un point de vue, c'est quand même une curation. Quoi.
Exactement, et puis c'est défendre quelque chose. Quoi. Donc,
qu'est-ce que tu défends toi?
Bon, en tout cas, j'essaie de défendre les artistes et l'abstraction.
Ouais.
J'ai pas que ça, j'ai des travaux à la frontière. Mais voilà, je pense qu'il y a deux points communs, l'abstraction et sans doute un peu le sujet. L'attrait pour la matière. Donc nous, on a beaucoup de travaux texturés où il y a de la matière. Donc il y a des acteurs purement digitaux et il y a des acteurs purement physiques. Des acteurs qui combinent vraiment les deux, ce qui est vraiment notre modèle. Hein. Il n'y en a pas vraiment, à ma connaissance. En revanche, aux États-Unis, il va exister des acteurs digitaux qui sont assez agiles et qui font de l'événement physique. Donc je pense à un acteur qui est... dont j'aime bien l'œil, où il y a une curation, qui s'appelle Tapan Collective. Et eux, ils ont réussi quelque chose quand même d'assez performant, je pense. Mais après, il n'y a pas aujourd'hui de vrais acteurs comparables, ni en B2C, ni en B2B, on l'a évoqué tout à l'heure.
Tapan Collective.
Collective.
Qui font un peu le quelque chose dans le même esprit.
Oui, alors, comme c'est purement digital, c'est des prix quand même vraiment inférieurs. Donc, c'est... Voilà. En revanche, ils défendent des artistes autour d'une espèce de ligne éditoriale qui est la leur, et avec une approche assez didactique, quand même une espèce d'accompagnement, et ils font de l'événement physique dans des lieux un peu vivants. Donc, il y a quand même quelques similitudes.
Qu'est-ce qui t'inspire dans d'autres secteurs, toi ?
J'aimerais bien avoir plus de temps pour regarder ce qui se passe ailleurs. Le point de départ de mes réflexions, c'est quand même quand j'observais l'industrie du luxe. Donc, je trouve que c'est intéressant de voir les évolutions, l'expérience client offerte, leurs projets en digital, même aujourd'hui en NFT, voilà, l'ensemble des... Comme ils sont toujours un peu à l'avant-garde, parce qu'en fait, ils ont d'énormes moyens, donc ça leur permet, mais c'est super, ça leur permet de garder leur avance. Donc l'industrie du luxe est intéressante. Et ensuite, je pense à des industries plus niches, des acteurs purement digitaux, très très performants, à la Cézanne. Voilà, je trouve ça intéressant de regarder leur façon de relayer. Parce que moi, ma difficulté avec le digital, c'est la partie humaine et d'arriver à retranscrire une relation humaine, l'accompagnement, une espèce de... Et je trouve qu'il y a des acteurs purement digitaux qui y arrivent très très bien à infuser ça. Donc voilà, je pense que je passe pas assez de temps justement à regarder ce qui se passe, mais voilà, il y a quand même des entreprises très avant-gardistes et performantes sur leur segment.
Trop bien, ok. Je pense qu'on a fait un bon tour quand même. Je sais pas, est-ce qu'il y a des sujets que tu voulais aborder, toi, en particulier ? Non, une question que j'avais en tête tout à l'heure et que j'ai oublié de poser, c'était est-ce que tu participes au Art Fair ? Comment sais-je plus comment on appelle ça ?
Au Foire et au Salon.
Ouais, Foire et Salon.
Alors, aujourd'hui, non. Parce que comme on l'a un peu évoqué, comme je ne suis pas vraiment intégrée dans ce milieu un peu fermé... au départ, c'était vraiment plutôt volontaire de rester en marge. Comme mon objectif, c'est de proposer une nouvelle expérience de l'art, je n'ai pas tellement de velléité à rentrer dans une expérience qui n'est pas celle que j'appréhende ou que j'ai envie de déployer. En revanche, maintenant, on arrive à une autre étape et ça m'intéresse d'aller faire des foires à l'étranger. En fait, d'aller présenter nos artistes à l'étranger, aux collectionneurs étrangers. Parce qu'on peut le faire en faisant un espace physique pop-up, mais c'est quand même plus efficace et plus impactant de le faire dans les foires. Donc on va sans doute démarrer quelques foires à l'étranger.
D'accord. Comme quoi, c'est Art Basel,
Oui, ou Art Bruxelles, exemple.
D'accord.
Ou ça peut être aux États-Unis aussi.
Qui une de mes dernières questions, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast, qui dans le monde de l'art ou d'autres mondes, je devrais aller interviewer, qui sont vraiment disruptifs, comme toi, t'as été disruptive sur ce marché.
Si t'avais pas précisé qu'il était disruptif, j'aurais conseillé un artiste, mais un artiste qui a une très belle carrière, type Soulages, parce que en fait, ça doit être intéressant d'interroger ce type de personnes pour avoir leur regard sur leur perception de cette évolution. Parce qu'en fait, ils sont de l'autre côté de la barrière, eux. Mmh. Mais comment ils perçoivent l'évolution de la galerie, du rôle de galeriste et du marché de l'art. Donc, des artistes, évidemment, ça serait super. Et un acteur disruptif, les grandes galeries, elles sont quand même... un acteur comme Perrotin, il est quand même assez puissant dans ses idées, dans les choses qu'il met en place. Là, je sais qu'il est en train de mettre en place un sujet NFT, mais assez costaud. Je suis pas sûre que ce soit disruptif, c'est plutôt dans l'air du temps. Il essaye de prendre la vague à son sommet. Mais...
Tu y es, toi, sur ce marché de la NFT ?
Pas encore, mais on est en train de travailler dessus. Oui.
Ouais. Ouais,
en septembre, on ouvre un site dédié aux NFT de nos artistes, mais pas avec sans démarche artistique, quoi. Une NFT qui a un peu de sens, soit en...
Qu'est-ce que t'as compris à ce truc, toi ?
Ce que j'ai compris à ce truc.
La NFT.
En fait, moi, je perçois ça comme un nouveau médium. Il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a de la céramique. Et ben maintenant, il y a de la NFT. En fait, c'est une autre façon d'exprimer une démarche. Donc, c'est une autre zone d'expression pour l'artiste. En revanche, il ne faut pas que ça devienne, donc, évidemment, ni qu'un outil de spéculation, ni qu'un sous-jacent sans intérêt, quoi, hein, sans intérêt esthétique, je parle. Hein. Parce qu'en fait, si j'essaye de prendre un peu de recul sur qu'est-ce qu'une œuvre ? Une œuvre, pour moi, c'est la réunion de trois choses, d'une technique, d'une démarche artistique et d'un esthétique. D'une esthétique. Donc, la démarche artistique, elle est ce qu'elle est, c'est ce pourquoi l'artiste le fait. La technique, c'est le côté vraiment pictural. Il y a des travaux plus ou moins techniques d'un point de vue pictural. Et l'esthétique, c'est très subjectif, ça, mais il y a quand même un côté inspirant. Bon. Aujourd'hui, Mickey qui crache des dollars, c'est compliqué d'y voir quelque chose. Une démarche artistique, on peut raconter ce qu'on veut, éventuellement, mais une esthétique et une technique, voilà. On est. Mais donc l'idée là, c'est d'essayer de réunir ces trois éléments dans une œuvre digitale. Donc ça peut être, je peux donner un exemple. On a un artiste qui travaille sur d'anciens supports, donc il vient rehausser d'anciens supports, soit le dos de carte marine, par exemple. Ou sur une couverture de livre, enfin c'est vraiment un beau travail. Et il a fait toute une série sur des partitions de musique pour un projet à l'époque avec l'opéra de Paris. Et là, c'est de faire vivre la partition de musique avec un son, de faire vivre les notes, de faire évoluer la partition en fonction des saisons, en fait, de voir comment sa façon de travailler à lui, mais de façon indirecte. Voilà, donc c'est un exemple. Là, je prétends que cette NFT-là, elle va apporter un peu plus d'éléments sur la compréhension de la démarche de l'artiste, de comment l'œuvre a été fabriquée, l'objet final, et d'apporter, susciter l'intérêt de d'autres sens, l'ouïe, le regard.
Très bien. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour la suite ?
Ben non, de continuer comme ça.
Ouais, t'as l'air plutôt bien parti. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour ta... Pour tout. Merci de nous avoir accueillis et bonne chance pour la suite des événements. Salut.
Merci beaucoup Adrien.
Bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.